Bonjour tout le monde. C'est un des grands débats de notre époque, le droit de mourir. Et dans quelles conditions devrait-on avoir le droit de mourir? Et là, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Alors, on va y aller étape par étape. D'abord, on va vous parler de ce qui se passe avec le procès de Michel Cadotte, accusé du meurtre de sa conjointe, atteinte de l'Alzheimer. On va aller rejoindre Philippe Bonneville, journaliste Cogeco Nouvelles. Bonjour Philippe.
Salut Bernard.
D'abord, raconte-nous ce qui s'est passé aujourd'hui et tu feras le lien avec ce qui s'est passé hier au moment du choix des jurés parce que c'était extrêmement émouvant ce que certains jurés, candidats jurés ont déclaré.
Absolument. C'est très émotif comme procès et ce le sera certainement au cours des 7 à 8 prochaines semaines. Je dois vous dire que depuis ce matin, c'est le début de la présentation de la preuve à ce procès-ci au 5e étage du Palais de justice de Montréal. Et dès la déclaration d'ouverture, parce qu'avant qu'il y ait un témoin qui soit entendu, la couronne a la possibilité de s'adresser aux 12 jurés. On parle de 8 hommes, de 4 femmes dans ce dossier-là qui vont donc juger Michel Cadotte. Et la couronne, oui, a fait un bref exposé, une dizaine de minutes, où on a appris quand même passablement de détails sur les circonstances qui ont mené à la mort de Jocelyne Lizotte, 60 ans. En gros, là, ce que je peux vous dire, c'est que Michel Cadotte, il a utilisé un oreiller pour étouffer sa conjointe atteinte d'Alzheimer. Sa conjointe était à ce moment-là couchée sur le dos dans son lit, dans une chambre du 4e étage d'un CHSLD de Montréal. Par la suite, selon la couronne toujours, il est sorti fumer une cigarette. Au retour, il a demandé à ce qu'on appelle le 911 et dans les minutes qui ont suivi, il a admis à l'infirmière chef du CHSLD que c'est lui qui avait étouffé sa conjointe, que c'est lui qui lui avait causé la mort. Et la couronne, Bernard, a dit aujourd'hui, il a choisi de lui enlever la vie. C'est lui qui a choisi de poser ce geste-là. Il a admis ses crimes quelques minutes plus tard. Et d'ailleurs, Bernard, quand on dit qu'il est passé aux aveux rapidement, il a texté le frère de sa conjointe, le frère donc de la victime. Il l'a texté et il lui a dit « J'ai sauté ma coche, elle n'est plus de ce monde, ta sœur. »
Alors là, c'est ce que vous avez entendu aujourd'hui. Racontez-nous ce que vous avez entendu hier maintenant.
Hier, c'était la sélection des jurés. Il y a des centaines et des centaines de citoyens montréalais qui avaient donc été convoqués ici au Palais de justice pour l'étape de la sélection des jurés. On devait choisir 12 personnes qui allaient juger Michel Cadotte. Habituellement, c'est rare que les médias s'intéressent à la sélection des jurés. Cependant, on le dit, hein, Bernard, c'est une cause particulière et la juge a été vraiment très, très claire avec les candidats hier. Elle leur a dit, elle leur a expliqué que les sujets de l'aide médicale à mourir, du suicide assisté, des meurtres par compassion seront abordés en long et en large durant ce procès-là. Et il y a plusieurs personnes qui ont demandé justement d'être exclues, d'être exemptées du procès parce que ces gens-là ont des proches qui souffrent d'Alzheimer ou qui ont souffert d'Alzheimer. Il y a des gens qui ont dit, en gros, là, un de mes proches a grandement souffert de la maladie d'Alzheimer. Je ne pourrai jamais être objectif dans ce dossier-là. Ça résume un peu la pensée de plusieurs. Et il y en a d'autres, Bernard, qui ont affirmé qu'ils comprennent tout à fait le geste commis par l'accusé de 57 ans, qu'ils auraient probablement fait la même chose dans la même situation et qu'ils seraient donc incapables de le déclarer coupable. Ouais. Évidemment, ces gens-là ont été exemptés pour des raisons évidentes parce qu'on doit trouver 12 personnes qui ont peut-être des opinions sur l'aide médicale à mourir, mais qui sont capables quand même de les mettre de côté pour le procès et d'être impartiaux pour juger l'accusé dans ce dossier-là.
Voilà. Philippe Bonneville, journaliste Cogeco Nouvelles. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Alors, il y a ça. Donc, il y a le procès Cadotte. En même temps, il y a aussi un autre procès qui est en cours. Donc, c'est deux personnes qui se sont vues refuser l'aide médicale à mourir, deux personnes qui sont lourdement handicapées, OK? Et on leur a refusé l'aide médicale à mourir parce que leur mort n'est pas prévisible. Ils ne sont pas en fin de vie, OK? Et là, le docteur Rivard, dont on rapporte les paroles dans la presse de ce matin, le docteur Rivard, lui, il prodigue l'aide médicale à mourir. Et il est allé témoigner à ce procès, OK, donc de ces deux personnes lourdement handicapées. Il a dit, écoutez, il ne faut pas élargir encore plus les critères. Il ne faut pas changer le critère de soins de vie. Il faut le garder, ce critère-là, de soins de vie. Parce que si on ouvre trop large, déjà on a de la misère à, excusez l'expression, mais on a de la misère à fournir. Les médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir, il y en a beaucoup qui sont mal à l'aise. Docteur Rivard dit, écoutez, là, moi, là, j'en fais depuis plusieurs années, puis on manque de bras, ce sont ses mots. On manque de bras, on manque d'effectifs pour fournir à la demande des personnes qui y ont déjà droit en vertu des critères actuels. Si, en plus, on élargit, il dit, là, ça va être, on sera plus capable de gérer ça. Fait que lui, il dit, avec les critères actuels, déjà, c'est pas évident, donnez pas plus d'accès. Alors ça, c'est le deuxième procès en cours. Et troisième élément qui s'ajoute, un texte dans le journal Le Devoir de ce matin, où là, tu as des chercheurs qui disent, non seulement il faudrait peut-être ouvrir l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont atteintes de l'Alzheimer, par exemple, mais il faudrait peut-être l'ouvrir aussi à des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux graves. Imaginez, là. Alors, si vous avez des réactions là-dessus, 790-9850, 98985 par texto, Drainville à commercial 985fm.ca. Mais avant de prendre vos appels, vos commentaires, on va aller rejoindre l'un de ces chercheurs, justement, qui écrit ce texte dans le. En fait, qui est cité dans le texte d'Isabelle Paré du Devoir. Il s'agit de Serge Larrivé, qui est professeur en psychoéducation et en éthique à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Larrivé.
Bonjour.
Alors, dites-nous. Parce que là, les gens là, qui viennent de m'entendre vont dire, ben là, c'est peut-être qu'on pousse l'affaire un peu trop loin, là. Peut-être qu'on est rendu trop loin dans l'aide médicale à mourir. Parce que là, un trouble mental, ça veut-tu dire que quelqu'un qui serait en dépression pendant quelques semaines ou quelques mois pourrait se tourner vers le médecin puis dire, ben là, moi, je suis déprimé, je veux plus vivre, fait que donne-moi l'aide médicale à mourir.
Non, on n'en est pas à ce point-là. Moi, ici, je parle des troubles mentaux réfractaires au traitement. Quand ça fait 10 ans, qu'on a essayé toutes les thérapies qui existent, tous les médicaments qui existent, et que la personne est encore en dépression, souffrante, malheureuse, il me semble que ce serait normal qu'on accède à sa demande.
Après 10 ans de traitement, donnez-vous comme exemple.
J'ai dit 10 ans, là. Ça peut être 5, ça peut être... Non, mais c'est-à-dire, après pas... Mais surtout pas une semaine, là. Non, je pense qu'il faut avoir fait, je suis d'accord avec ceux qui s'y opposent, d'avoir fait tous les traitements possibles et impossibles.
Là, dans le papier d'Isabelle Paré de ce matin, vous êtes cité, je pense que c'est vous, ou l'un des deux autres chercheurs qui est avec vous. Vous donnez des exemples de pays où ça se fait, là, où les personnes atteintes d'un problème de santé mentale ont accès à l'aide médicale à mourir.
Oui, tout à fait. Il y a Belgique, Pays-Bas, Suisse, enfin, non, c'est sûr qu'on peut, qu'il y a d'autres pays qui ont tiré ça au clair. En fait, voyez-vous, moi, je suis partisan de, avec des réserves, bien sûr, là, mais que les gens aient le droit, quand la vie est trop dure, d'avoir le choix de choisir leur moment de partir. Et je préfère ça au suicide. Parce que s'ils ont l'aide médicale à mourir, ça veut donc dire que leurs proches vont pouvoir les accompagner dans cette démarche. Mm-hmm. Ce qui, à mon avis, devrait être plus facile pour les gens que d'apprendre subrepticement que leur mari ou leur conjoint ou je ne sais pas qui là, s'est suicidé. Parce que c'est vers ça que ça mène.
Ben,
quand
ça.
Les gens n'en peuvent plus, moi, je pense que fondamentalement, les gens aiment ça vivre. Mais quand tu es rendu à dire pendant des années de temps que tu n'en peux plus de souffrir, ben, il me semble que c'est un minimum de respect là, pour la personne.
C'est sûr que quand je lis vos propos puis quand je vous écoute, si l'alternative, c'est le suicide, M. Larrivé, c'est sûr que là, tu sais... On veut pas que les gens se suicident. Si vous nous dites, ben garde, c'est où tu leur donnes l'aide médicale à mourir parce que la personne est profondément dépressive, puis on a essayé tous les traitements psychologiques, psychiatriques, les médicaments, tout le reste, elle souffre énormément. Et donc, c'est ça tu y donnes ou soit elle se suicide. Ben c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben là, poser comme ça. Ouais. On va leur donner l'aide médicale à mourir. Mais le problème, évidemment, c'est où est-ce que tu tires la ligne? Parce que, comme me disait Alexandra, une de mes recherchistes avant d'aller en onde, l'un des symptômes de quelqu'un qui est dépressif, c'est de vouloir mourir. Et là, on veut pas la laisser aller, on veut la soigner, on veut lui enlever ce goût, si on veut dire, cette tentation de s'enlever la vie. On veut lui enlever la soigner.
Bien sûr, si quelqu'un me dit qu'il a le goût de mourir, c'est sûr que je vais tout faire pour l'aider. Hein? Donc, mais en bout de ligne, quand il n'y a plus rien à faire, on peut-tu avoir du respect aussi pour ce monde-là?
Comment on sait qu'on a assez essayé? Tu sais, dans les pays où c'est permis, là, à partir de quel point est-ce qu'ils disent, OK, là, vraiment, on a vraiment, vraiment tout essayé, et là, cette personne qui a un problème de maladie mentale devrait avoir le droit de mourir?
Il y a des règles, comme par exemple, il faut s'assurer que la personne impliqués rencontrent tous les critères là, qui sont énoncés dans ces pays-là. On peut l'informer aussi qu'elle peut retirer sa demande en tout temps, obtenir d'un autre médecin ou d'infirmier praticien, je ne sais pas qui, là, indépendamment, un avis confirmant le respect de tous les critères. Donc, c'est pas magique. C'est pas parce que j'ai envie d'eux qu'on va procéder.
Mais
là,
quelqu'un, par exemple, qui est schizophrène, grave, mettons.
Oui.
Est-ce qu'il pourrait obtenir l'aide médicale à mourir dans ces pays, comme je pense c'est la Belgique et les Pays-Bas?
Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne le sais pas.
OK.
Pour moi, le cas typique là, dans ces cas-là ici, c'est la dépression. Là. C'est-à-dire qu'avec la dépression, on sait qu'il y a des traitements efficaces. Et puis quand ça ne marche pas, ben là, c'est peut-être peut-être aussi qu'il va falloir y aller avec maladie par maladie aussi. Là. Je ne le sais pas. On est en terrain très, très mou. Là, hein. On n'est pas dans la rigidité. Là,
non, ici. Non, vous lancez le débat, là, dans le fond, mais vous l'amenez. Vous l'amenez là, à ma connaissance, où on n'est jamais allé. Parce que là, on a deux procès, dans le fond, qui posent la question. Il y en a un qui pose la question de l'Alzheimer. Dans le fond, est-ce que les personnes atteintes d'Alzheimer devraient avoir le droit de médicalement de mourir? Bon, il y en a d'autres qui disent, dans un autre procès, qui posent la question, est-ce qu'il faut être arrivé en fin de vie? Le critère de fin de vie, est-ce qu'il faut le remettre en question? Bon, puis si la réponse est non, ça voudrait dire que des personnes lourdement handicapées pourraient avoir le droit de mourir. Et là, vous vous l'amenez à une troisième étape, là.
Mais écoutez, je trouve que le procès là, sur les personnes lourdement handicapées, là, je trouve que, peut-être que je me trompe, là, mais que ça rejoint un peu le problème de la santé mentale. Autrement dit, ces gens-là, là, ils n'en peuvent plus de souffrir. Il me semble que c'est une solution éthique que de leur dire, on est d'accord, on va accepter, puis là, on va vous accompagner là-dedans.
Monsieur le professeur, on va s'arrêter là-dessus parce que j'ai beaucoup de commentaires et j'ai beaucoup d'appels également. Serge Larrivé, donc, c'est votre nom, professeur de psychoéducation et d'éthique à l'Université de Montréal. Merci.
Plaisir. Au revoir.
Au revoir. On va aller rejoindre Francine qui nous appelle au 790-9850. Bonjour, Francine.
Bonjour. Bonjour.
Je vous écoute.
Bon, écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant qui vient de discuter avec vous. Moi, j'ai un fils qui souffre de santé mentale. On n'a malheureusement pas de diagnostic, que ce soit schizophrène. Il est toxicomane. Ça fait 10 ans que je m'occupe de lui. Il veut pas se faire soigner parce que pour lui, il n'y a pas de problème de santé mentale, mais il y en a un problème de santé mentale. Et souvent, il me dit, maman, tu sais, j'aimerais ça partir, mais je sais pas comment. Mais si on avait, parce que il est tellement affecté mentalement que il pourra probablement jamais s'en sortir, puis il va avoir une vie difficile, une vie dure, puis il veut plus vivre cette vie-là. Souvent, il me dit, maman, je vais me suicider, maman, je veux partir, maman, je...
Et, mais Francine, est-ce que si c'était permis par la loi, là, est-ce que vous seriez prêt à laisser partir votre fils?
Oui. Oui. Oui, aussi dur que ça puisse paraître, oui. Parce que je sais qu'il va arrêter de souffrir. Et puis moi aussi, par la même occasion.
Il a quel âge, votre garçon?
Il a 27 ans.
OK.
Il y a 27 ans, puis ça fait longtemps que je... Ça fait longtemps. Il me disait, maman, il m'appelait, maman, tu me reverras plus jamais. Et finalement, je le faisais rechercher par la police, puis on le retrouvait. Oui, c'est un grand toxicomane. Malheureusement, il y a eu un grand manque dans son adolescence. J'ai perdu mon fils et pour toute son adolescence. Et puis, on essaie d'avoir des services, mais c'est pas évident d'avoir des services. Quand on a des services, ils vont mettre sa toxicomanie, ils vont lui donner des médicaments pour sa toxicomanie, mais ils vont pas le soigner pour sa maladie mentale. Ils disent, ben, on faut qu'on le soigne pour la toxicomanie, mais après, on n'a pas d'autres soins, tu sais. Alors, c'est ça qui est difficile. Mais combien de fois mon fils me dit, maman, je peux plus vivre comme ça. Des fois, il devient tellement dépressif, c'est probablement par le manque de drogue, j'imagine. Puis, écoutez, j'y ai fait faire 17 thérapies, là. C'est pas parce qu'il n'y en a pas fait, là. Ça m'a coûté je sais pas combien de milliers de dollars, là. Alors, moi, je pense que un jour, on va devoir
l'envisager.
S'arrêter. L'envisager, okay. Effectivement. Je vous remercie.
Merci, Francine, pour l'appel. Et syncope. OK. Martin, bonjour.
Salut, ça va bien?
Ça va.
Ouais. Moi, regarde, mon père est décédé de l'Alzheimer. Ma mère, le cancer, l'a apporté avant, mais elle était diagnostiquée Alzheimer. Je me suis occupé de mon père pendant 4 ans, moi et ma soeur. Pas mal à temps plein. Puis, je peux pas entrevoir que je vais imposer ça à mes enfants. C'est impensable.
Si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme ça, oui, je comprends.
Ben oui, c'est sûr et certain. Je l'ai vécu. Tu sais, mon père, j'ai tout donné, puis c'était correct. Mais mon plan, j'abrège en réalité ma vie avant de plus être capable de le faire. Ça veut dire que je vais perdre des années qui m'auraient resté.
Mais vous seriez ouvert à ce qu'on donne beaucoup plus d'accès à l'aide médicale à mourir, c'est ce que vous nous dites en terminant, Martin?
Ben oui, c'est sûr et certain que je sois capable de faire un papier pendant que j'ai ma tête. Que la journée que je ne reconnais plus mes proches, on arrête ça.
Très bien, merci pour l'appel. Il y en a beaucoup, vous savez, qui pensent comme ça. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, on a fait cette dame là qui n'a même pas quoi 40 ans, là, puis elle s'est fait dire Alzheimer précoce, puis elle a dit, là, moi, là, je veux pouvoir signer un papier, justement, même quand j'aurai plus ma tête, là, à un moment donné, là, parce que le consentement éclairé fait partie des conditions pour obtenir l'aide médicale à mourir. Alors, elle a dit, écoutez, moi, je signe un papier, puis à partir du moment où je ne reconnais plus mes proches, ils devraient activer l'aide médicale à mourir à partir du papier que j'ai signé quand j'étais consciente. Comprenez? Mais ça implique changer la loi, là. On est là-dedans, là. Alors, rapidement, plusieurs textos qui disent, écoutez, on ne devrait pas obliger quelqu'un à endurer des souffrances. Il y en a d'autres qui disent, une maladie qui est irréversible, qui affecte grandement ta qualité de vie. Selon moi, les gens ne devraient pas se faire forcer à vivre contre leur volonté. D'autres me parlent de la lourdeur de ce débat-là, à quel point ça les interpelle dans leurs valeurs profondes. En terminant, un dernier texto, il faut voir quelqu'un de souffrant, une personne âgée atteinte d'Alzheimer sans qualité de vie pour vraiment, vraiment comprendre. On a fait notre part pour faire avancer cette discussion-là. On va y revenir, c'est bien entendu. Après la pause, le fleuve pour diminuer ou régler le problème de congestion.